Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Depuis samedi, la région Île-de-France et 8 métropoles françaises vivent à l'heure du couvre-feu. Entre 21h et 6h du matin, sauf exception dûment justifiée, les rues doivent être désertes et les lieux recevant du public fermés. Les habitants des villes concernées sont invités à rester chez eux et à n'être pas plus de 6 à table, sauf la famille plus nombreuse évidemment. Le but est de limiter la propagation du coronavirus. Cela doit durer a priori jusqu'au 1er décembre au moins. Après 2 mois de confinement au printemps et avec en plus la tension et l'émotion née de l'assassinat terroriste de vendredi, ce n'est pas rien. Jusqu'où les mesures de restriction peuvent-elles être supportées? C'est la question du jour. Et pour en parler, 3 invités sont avec nous aujourd'hui. Avec nous dans ce studio, il y a Jean-Marie Burgu-Buru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. En quelques mots, de quoi s'agit-il ?
La Commission nationale consultative des droits de l'homme, on dit CNCDH pour aller plus vite, a été créée en 1947 à l'impulsion de René Cassin. Elle est le conseil indépendant des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est un organisme d'une 60aine de membres qui se réunissent en assemblée plénière au moins une fois par mois, disons 10 fois par an, et qui émet des avis, des recommandations, des déclarations qui sont publiées au journal officiel.
Alors merci pour ces précisions. Je vais continuer la présentation de nos autres invités. Jean-Pierre Coutron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie et à la consultation jeunes consommateurs de l'association Opelia de Boulogne-Billancourt et vous êtes porte-parole de la Fédération Addiction. Et nous sommes aussi en direct par téléphone avec Luc Rouban, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et auteur du livre « La matière noire de la démocratie », édition Les Presses de Sciences Po. Luc Rouban, je vais commencer avec vous, puisque vous êtes sociologue, et je vais vous poser une question assez large, mais assez directe. La société française est-elle sous tension depuis le mois de mars ?
Alors, elle est évidemment sous tension depuis le mois de mars, mais elle est sous tension, je dirais, depuis très longtemps. Donc, il y a plusieurs tensions, mais c'est vrai que la crise sanitaire a été, en quelque sorte, non pas un révélateur, mais un amplificateur, ou la poursuite d'une crise sociopolitique quand même sous-jacente très profonde, révélant bien sûr des fractures sociales, hein, parce que dans le fond, la crise sanitaire, disons la Covid-19, c'est quand même une maladie plutôt catégorie populaire, hein, si on regarde la distribution des malades et la distribution géographique des cas les plus graves. Donc c'est un élément important de fracturation sociale, ou du moins d'affirmation, de renforcement ou d'aggravation de cette fracture. C'est aussi l'occasion de mettre en cause aussi la frontière entre public et privé. Parce qu'évidemment, le principe même de l'épidémie, c'est qu'elle ne connaît pas de frontières institutionnelles ou relevant de la théorie politique entre l'espace public et l'espace privé, d'où les problèmes évidemment soulevés, à mon avis, de manière très intéressante, par le problème à la fois du confinement et d'une relative restriction des libertés publiques avec le couvre-feu.
Jean-Marie Burgu-Buru, est-ce que la prolongation, la multiplication des mesures de restriction de liberté, tout simplement, comme le disait à l'instant Luc Rouban, mais aussi d'activité, de déplacement, finit par poser un problème de droit? Est-ce que le fait que ça dure aussi longtemps, ça va finir par poser un problème?
Oui, bien sûr. Mais avant même de répondre à cette question, j'aimerais partager l'avis de l'interlocuteur précédent, Monsieur Coutreau. Il est vrai que les classes les plus défavorisées, que les milieux défavorisés souffrent à la fois beaucoup plus durement et de la maladie, de la Covid, et aussi de l'état d'urgence sanitaire qui a aggravé les difficultés, qui a aggravé en quelque sorte une discrimination, et c'est un point très important dont se préoccupe la CNCDH. Alors, pour revenir à votre question, bien évidemment, les droits fondamentaux sont impactés par l'état d'urgence sanitaire et les libertés dont nous avions oublié qu'elles existaient presque tellement elles sont naturelles. Le droit d'aller et de venir, le droit de se réunir, le droit de se mettre en réunion, de manifester même. Tous ces droits sont suspendus ou affectés. Ils l'ont été gravement par le confinement. Ils le redeviennent par le couvre-feu, voir les rues désertes des métropoles qui sont sous couvre-feu actuellement. Cela fait, pour les plus anciens d'entre nous, penser à un temps que l'on croyait révolu, un temps de guerre.
Jean-Pierre Coutron, vous êtes psychologue clinicien, spécialiste en addictologie. Quelles sont les conséquences psychologiques que vous avez notées chez vos patients, chez les gens que vous rencontrez depuis le mois de mars et encore plus récemment?
Alors hier, on avait comme ça un webinaire où on débriefait avec un certain nombre de spécialistes les conséquences du confinement. Donc ça nous donne un peu de recul par rapport à ce qui commence avec le couvre-feu. Alors effectivement, on retrouve les points qui viennent d'être abordés. On retrouve les inégalités sociales de santé qui ont pesé très lourdement sur un certain nombre de publics, hein, et en priorité, effectivement, les publics les plus démunis. Et puis on retrouve un deuxième axe qui a à voir avec les, on pourrait dire plutôt nos caractéristiques psychologiques, c'est-à-dire que quand vous avez une famille qui est en crise, être enfermé tout le temps, eh ben c'est pas simple. Quand vous avez un enfant qui est hyperactif, c'est pas une maladie honteuse, l'hyperactivité, mais ça devient d'un seul coup un handicap supplémentaire dans ce moment-là, quand vous avez un des parents qui a un problème d'addiction. Voilà. Et donc, ces micro-causes se sont rajoutées, et alors on a, comme à chaque fois, la catégorie inégalité sociale de santé qui croise la catégorie problème psychologique. Et là, ça explose. Et puis, pour finir, juste être complet, il y a une troisième chose qui est que chacun d'entre nous a des rythmes dans notre vie. On a des moments sociaux, vous le disiez, mon interlocuteur de Sciences Po le disait, on a des moments privés, on a des moments publics, et tous ces moments-là ont été redistribués, hein, de façon un peu mécanique, et c'est pas aussi simple que ça, même pour vous et moi, c'est-à-dire même pour des personnes, entre guillemets, normales, voire d'un seul coup effacer la séparation privée-public, voire effacer le temps de travail, du temps de loisirs, n'a pas été aussi simple que ça, et ça s'est traduit par des modifications dans mon petit micro-secteur, par des modifications des consommations et des modes de produits et de vers quels produits on est allé. Voilà.
Est-ce que, pour le dire très clairement, est-ce que depuis le mois de mars, les addictions se renforcent ou est-ce que elles changent de nature?
Elles ont changé de nature. Ouais. Par exemple, les addictions festives que l'on prenait dans les grands rassemblements publics, les produits ont été moins pris. Des produits qui apaisent et qui permettent de supporter ont été plus consommés parce que c'est plus supportable et que c'est plus discret, et même c'est moins dérangeant de l'autre. Voilà. Donc on a vu comme ça des modifications. Faut pas oublier que dans l'addiction, il y a toujours une logique adaptative. On prend un produit pour s'adapter à son environnement. Quand l'environnement change, on va quand même changer la façon dont on va prendre le produit.
Luc Rouban, les mesures qui sont prises, est-ce que, selon vos informations, elles sont bien comprises et bien acceptées?
Oh oui, je pense qu'elles sont relativement bien acceptées. Disons que c'est une acceptation résignée, parce que dans le fond, les Français sont comme le gouvernement, ils doivent arbitrer entre, d'un côté, l'intérêt sanitaire, la protection de leur santé et celle de leurs proches, et puis de l'autre côté, leurs intérêts économiques, hein, et le risque d'une catastrophe économique si vraiment on devait repartir vers une solution de confinement général. Et d'ailleurs, les dernières enquêtes dont on peut disposer montrent que si les Français en moyenne, enfin les enquêtés, sont en moyenne quand même inquiets à 70% pour leur santé, ils le sont à 90% pour la situation économique du pays et éventuellement pour la leur en propre. Donc, si vous voulez, c'est un arbitrage avec évidemment des situations qui sont une acceptation qui est relativement plus ou moins forte selon la situation là encore sociale. C'est vrai que du côté des professions supérieures, des professions intellectuelles, des cadres, vous avez une acceptation qui est relativement forte parce que dans le fond vous avez aussi les moyens de pouvoir supporter un certain nombre de contraintes. C'est un petit peu, alors, et surtout aussi du côté des personnes plus âgées, hein, au-dessus de 65 ans ou au-dessus de 50 ans, Et évidemment, pour des raisons différentes, et c'est là le problème, c'est un petit peu compliqué comme débat, vous avez une hostilité plus grande du côté notamment des plus jeunes qui voient leur mode de vie bouleversé, notamment par le couvre-feu. Effectivement, comme le disait l'interlocuteur précédent, par la remise en cause du lien social et aussi des occasions festives, et puis le sentiment que les jeunes vont sans doute être peut-être les grandes victimes de cette période historique.
Oui, j'allais vous... Bien... Oui, allez, finissez, terminez.
Oui, et effectivement, vous avez, si vous voulez, une inquiétude, si vous voulez. Alors, le problème de l'inquiétude, c'est que effectivement, l'inquiétude est d'autant plus grande qu'on va du côté des catégories populaires, et que plus on est inquiet, plus on soutient les mesures de protection, mais en même temps, vous avez, alors c'est là où ça devient très compliqué, vous avez le positionnement politique, parce qu'en France, la crise sanitaire est très politisée. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous donner une réponse simple, c'est-à-dire que globalement, socialement, je vous dirais, voilà, vous êtes plus inquiet si vous êtes plutôt du côté des catégories populaires, et vous êtes donc plutôt favorable à des mesures de protection. Là, bon, il y a quand même des différences, mais avec les classes supérieures, mais enfin, c'est relativement minime. Mais après, vous avez une deuxième couche, si vous voulez, de variables qui, elles, sont sociopolitiques, et qui rejoignent, alors là, la grande fracture française entre, d'un côté, la démocratie représentative ordinaire, et puis de l'autre, la critique populiste, qui implique aussi une critique de la science. Alors, je vais pas aller plus loin pour l'instant.
Oui. On va essayer de... Jean-Marie Burguburu.
Oui, bien sûr, parce que j'aimerais revenir tout de suite sur cette notion d'acceptation. Soyons réalistes, c'est quand même une acceptation contrainte. La contrainte vient sans doute de la peur de la maladie. Cette peur est d'ailleurs tempérée par ceux qui regardent les courbes de mortalité. L'étude des courbes de mortalité du mois de janvier à août 17, comparée à 18, 19 et 20, montre qu'il n'y a pas une surmortalité. Donc parmi les morts du Covid, il y a aussi des morts naturelles, si j'ose dire, des morts qui seraient arrivées quand même. Alors qu'à l'inverse, si on se souvient de 2003 et la canicule, il y a eu une croissance exponentielle du nombre de morts pendant donc
il y a quand même eu un excédent de mortalité au mois de mars-avril.
Un excédent de mortalité rapide, hospitalière, mais sur les chiffres globaux, ça n'apparaît pas d'après les statistiques de l'INSEE.
D'accord.
C'est assez curieux et j'étais étonné moi-même de voir ces chiffres. Je ne dis pas que les chiffres sont faux et que le gouvernement cherche à faire peur, mais il y a la volonté légitime de la part du gouvernement, de n'importe quel gouvernement, celui actuel, le précédent avec Édouard Philippe ou un autre s'il était au pouvoir, de vouloir tenter de limiter le développement de l'épidémie à défaut de pouvoir l'empêcher d'arriver sur le territoire. Et donc cette peur, cette crainte légitime de la part des citoyens a entraîné l'acceptation des mesures. Mais qui aurait pensé, lorsqu'on voyait les Chinois masqués rentrer chez eux, on pouvait dire « mais ça n'arrivera jamais en France ». On le fait en Chine parce que c'est une dictature. On le fait en Chine parce que ceux qui restent dehors, on les fusille ou on les met en prison. En France, il n'y avait pas besoin. Il suffisait de décider et le lendemain, les rues étaient vides, comme elles le sont à nouveau avec le couvre-feu. Il y a très peu de récalcitrants. Et je voudrais terminer en disant, cette crainte de la santé, cette crainte du risque sanitaire ne masque pas les difficultés juridiques, puisque je suis là pour en parler un peu, de ces états d'urgence, qu'il s'agisse du confinement généralisé ou désormais du couvre-feu. Et la question doit légitimement être posée. Était-ce le seul moyen de lutter contre l'épidémie et fallait-il pour cela créer des lois d'exception?
Alors, avant d'aller sur ce terrain-là, j'avais prévu d'en parler, évidemment.
Eh bien, on en parlera.
Il y a des mesures qui sont générales, c'est-à-dire que les mesures de confinement et de couvre-feu, eh ben elles s'appliquent à tout le monde. Quand on a bien vu que quand certains secteurs économiques demandaient à avoir par exemple que les billets de cinéma servent de laissez-passer pour rentrer à la maison si la séance se terminait avant 21h, ça a été non.
Bachelot a perdu.
Pourquoi est-ce qu'on a pris ces mesures générales qui s'appliquent à tous de manière uniforme? Est-ce que c'était justement pour éviter l'accusation de discrimination?
Sans doute, si on faisait un couvre-feu ou un semi-confinement à la carte, personne n'y comprendrait plus rien. Il est vrai qu'actuellement, il y a une montée en puissance des responsables de l'activité commerciale de bars, restaurants, de restaurants notamment. Les bars sont fragiles, les bars c'est la convivialité, on ne reste pas assis à un bar, on est debout, on s'embrasse, c'est bien sûr la disparition des gestes barrières, du masque et... Et il y a un danger. Mais pour les restaurants, les gens assis à des tables séparées, les gens qui ont leur masque dès qu'ils se lèvent pour aller aux toilettes ou ailleurs, les gens qui enlèvent leur masque parce qu'ils sont au restaurant pour manger quelque chose, eh bien, on a constaté qu'il y avait en fait, on ne trouvait pas la trace d'une contamination lorsque les restaurants sont ainsi bien tenus. Et par conséquent, il y a une montée en puissance d'une contestation sur la fermeture des restaurants. Des restaurants, pas des bars, je dis bien. Et on pourrait peut-être la comprendre. Mais quant au spectacle, malgré le drame économique que ça représente pour eux, on peut comprendre à l'inverse qu'on ne peut pas faire à la carte avec le théâtre qui se termine à 22h, le cinéma qui se termine à 22h30, etc. Tout le monde serait dans la rue et il n'y aurait plus de couvre-feu. Il faut une poigne assez précise pour faire respecter cette mesure qui se veut d'ordre sanitaire.
Jean-Pierre Coutron, est-ce qu'il faut une règle simple, quitte à être injuste, pour qu'elle soit comprise ?
C'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui fait qu'on se plie à une règle. Vous avez bien compris qu'une partie de ce qui pose problème là, ça sort dans les débats, c'est vous privez et vous interdisez tout ce qui est du côté du plaisir et du loisir, et mettez comme priorité qu'on aille travailler, soit à l'école, même si on se côtoie ou pas. Et après, vous avez des expertises croisées. Je veux pas polémiquer, pour adiber le débat avec mon vis-à-vis, mais on pourrait dire, par exemple, au cinéma, après tout, chacun a son masque, on ne se parle pas, comme une partie des contaminations, c'est de se parler.
On regarde tous dans le même sens,
en fait. On regarde tous dans le même sens, on fait sortir les gens, on les interdit d'aller au restaurant, au bar après, on pourrait dire pourquoi pas. On voit bien qu'on est obligé de prendre des mesures, et c'est bien ça qui est difficile dans l'exercice, des mesures collectives. On voit bien que ces mesures sont obligées de cibler un domaine de notre socialisation plutôt qu'un autre. Est-ce que c'est la vie de famille ? Est-ce que c'est les loisirs à l'extérieur ? Ou est-ce que c'est l'activité professionnelle ? Visiblement, ce qui est ciblé, c'est les fêtes personnelles, parce que quand même, le fameux chiffre de 6, et puis on voit monter, même entre membres de la même famille, faites des efforts pour pas vous voir en ce moment. Donc on choisit de dire, écoutez, il y a deux craintes, la crainte économique, la crainte sanitaire, on va essayer de tenir compte des deux, et du coup, privez-vous de la troisième. Le plaisir et le loisir. Et là, on retombe sur un exercice qui est très compliqué. Je disais à un collègue en partant ici, moi, quand j'étais jeune, j'étais un très mauvais danseur. Donc, quand il y avait des soirées festives et qu'on disait « Ouais, c'est compliqué, on ne dansera pas », moi, je dis « Nickel, ça me va ».
Vous restez au bar, c'est
ouais,
ça.
Ouais, ça me va. Non, mais voyez, et ceux qui dansent disaient « Ah non, on va dans un endroit où on peut danser ». C'est-à-dire que quand on arrive dans ce domaine-là du loisir, c'est là que votre question est intéressante. C'est parce que la loi commune ne va pas toucher chacun avec la même intensité. Et là, c'est très facile de dire « Tu es un mauvais citoyen ». Alors que l'on va dire, ah non, moi je sacrifie plus que toi.
Alors justement, Luc Rouban, on sent bien quand même que dans cette affaire des fêtes privées, il y a quand même plus des catégories qui sont plus ciblées que d'autres. On a beaucoup parlé du taux d'incidence chez les jeunes. Est-ce qu'il y a des mouvements de contestation qui se structurent contre ces mesures, ou est-ce que c'est totalement anecdotique ?
Bah, écoutez, d'après ce qu'on peut savoir dans les enquêtes, c'est vrai que la contestation du couvre-feu, elle est quand même plus importante entre les 18, entre 18 ans et 34 ans. Le problème, c'est que en dessous de 18 ans, vous êtes en dessous de la couverture radar des enquêtes qui ne prennent en considération que des enquêtés au-dessus de 18 ans, sauf enquête particulière sur les jeunes en dessous de 18 ans. Mais si vous voulez, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a une forme de contestation, je dirais presque parfois de résistance civique, et c'est vrai qu'il y a quand même, derrière tout ça, un vrai débat sur la responsabilité sociale des jeunes, sur une forme de mise en scène parfois un peu dure de la fracture générationnelle qui consiste à dire, ben, vous les jeunes, vous êtes quand même, c'est un petit peu le sens du discours du président de la République d'ailleurs, vous les jeunes, vous devriez quand même faire attention parce que vous pouvez quand même diffuser le virus autour de vous, même si vous n'êtes pas directement concerné, et encore, c'est pas le cas dans tout, c'est pas forcément le cas. Donc il y a quand même cette idée que, vous voyez, si vous voulez, on revient toujours à ce gros problème de la société française qui est la cohésion sociale. Et on l'a bien vu au moment du confinement, on l'a bien vu, on le voit maintenant actuellement plutôt sur un angle générationnel, et je pense que c'est ça le problème de fond, c'est-à-dire que effectivement il y a la remise en cause des modes de vie, il y a la remise en cause d'une certaine forme peut-être de culture festive, il y a la nécessité d'une égalité, parce qu'effectivement, comme disaient les interlocuteurs précédents, c'est très difficile aussi de faire un confinement un couvre-feu à la carte, parce qu'évidemment, pourquoi une exception pour les uns, pourquoi pas pour les autres? Donc, et après, ça sera encore l'exception culturelle, c'est-à-dire c'est encore les petits bourgeois diplômés qui vont au théâtre et au cinéma qui vont en profiter. Vous voyez, donc là c'est complexe comme débat, mais c'est vrai que ça nous renvoie à la cohésion sociale française, qui par rapport à d'autres sociétés, notamment la société britannique ou la société allemande, est quand même beaucoup plus faible.
J'allais poser la question à la cantonade Jean-Marie Burguburu, et plus particulièrement à vous. Finalement, ça change quoi de ne pas pouvoir sortir le soir? Parce que ce sont les grandes villes, la région parisienne, qui sont visées par ces mesures de couvre-feu, mais c'est quand même le cas dans une bonne partie de la France, qui n'y a plus rien à faire après 21h.
Il y a un bon tiers de la France, 20 millions à peu près, 20 millions de personnes qui sont sous couvre-feu. Il faut distinguer deux choses. C'est une gêne matérielle, puisque la vie sociale se fait après les heures de bureau, donc elle se fait le soir, et même pour les enfants l'âge scolaire, la vie sociale se fait en famille, dedans ou dehors, après le temps scolaire. Donc le soir est important. C'est un phénomène de vie en société tout à fait évident. Mais au-delà de la gêne matérielle ressentie légitimement par toutes ces personnes qui en sont affectées, le juriste se penche un peu sur la situation. C'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Et est-ce qu'elle est légale? Je ne vais pas dire que l'état d'urgence sanitaire n'est pas légal. Je ne vais pas dire que le couvre-feu n'est pas légal, puisqu'ils sont ordonnés par des textes de loi ou des décrets. Mais en réalité, on essaye de regarder cette mesure par le prisme des droits de l'homme. Le prisme des droits de l'homme, c'est regarder si cette mesure est nécessaire, si elle est proportionnée et si elle est temporaire. Est-elle nécessaire? Les médecins le disent. Alors, il y a le conseil scientifique. Ce n'est pas les juristes qui le décident. Ça, c'est le premier critère. On la considère nécessaire, cette mesure. On l'adopte, on le postulat, c'est nécessaire. Est-elle proportionnée? Proportionnée, ça veut dire, est-ce qu'elle n'est pas trop forte? Je rappelle que la CNCDH avait rendu à l'époque un avis très réservé, pour ne pas dire négatif ou hostile, à l'application Stop Covid. On a vu depuis qu'elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché pour des tas de raisons techniques et aussi parce que les Français ne l'ont pas assez téléchargé. Mais proportionnée, ça veut dire une atteinte aux droits de l'homme qui soit en relation avec le dommage que l'on veut éviter, avec la solution qu'on veut obtenir. Est-ce que le couvre-feu, est-ce qu'empêcher les Français de sortir, donc c'est 20 millions ou un peu plus
18,
de Français,
20 millions, oui.
18, 20 millions, est-ce que c'est proportionné au risque sanitaire? Est-ce que ça n'est pas un peu trop? Et c'est ce qu'on dit, effectivement, respectons les gestes barrières de plus en plus. Au restaurant, on vous prend maintenant votre nom, votre adresse, votre téléphone, et on vous dit, attention, s'il y a quelque chose, on vous appelle et on garde ce papier pendant 15 jours avant de voir s'il n'y a pas un problème. Donc, proportionné, nécessaire, proportionné, et le dernier point, c'est temporaire. Alors, temporaire, là, on dit, oui, c'est temporaire, mais premièrement, on a eu le confinement de longue durée, ensuite, il y a eu un déconfinement, maintenant, il y a le couvre-feu, c'est un temporaire qui dure un peu, puisqu'on nous dit même que le couvre-feu, c'est théoriquement jusqu'au 1er décembre, mais on laisse entendre que ça pourrait durer un peu plus, mais on n'ose pas le dire maintenant, parce que attaquer les fêtes de fin d'année, il n'y a pas que les catholiques qui vont à la messe de minuit, qui pensent aux fêtes de fin d'année, tout le monde y pense. Il y a un vrai problème.
Jean-Pierre Coutron, je l'avais dit en préambule, effectivement, tout ça n'est pas rien. Est-ce que la superposition de mesures depuis le mois de mars, est-ce que tout ça, vous diriez que ça fait beaucoup, voire que ça pourrait faire trop?
Je dirais pas que ça fait trop, parce que vous l'avez rappelé, ça vient d'être redit. Moi, dans mon domaine, on est en train de nous dire, ben, vous n'allez plus hospitaliser parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital. Les personnes qui doivent faire des cures, c'est plus la priorité. Et je pense à mes collègues qui, à l'heure qu'ils sont dans les services d'urgence et de réa et qui se battent pour avoir des lits. Donc, ça, on l'a pas inventé. On sait que l'hôpital est épuisé. On sait que nos collègues hospitaliers sont épuisés et que les soins nécessités par cette pathologie mobilisent beaucoup. Donc, le nécessaire, on n'a aucun doute. Après, c'est sur, j'irais, l'application de la mesure et la façon dont on en parle. Vous avez un accent charmant qui m'amène à m'interroger. Vous êtes de quelle région ?
Je suis de la région Rhône-Alpes.
Voilà, vous êtes de la région Rhône-Alpes. Je dis ça parce que, par exemple, c'est faut-il interdire les chemins côtiers au bord des plages ? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut interdire ? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut interdire ? On veut interdire aux personnes d'être entre elles. C'est ça qui est compliqué dans cette mesure. C'est que le couvre-feu, ce qu'il nous dit, c'est de nous réunir dans des moments de convivialité. Et c'est pas pour rien si les restaurants sont visés. Pourquoi on se contamine plus dans les restaurants ? Parce qu'on enlève son masque et qu'on parle. Et que c'est là qu'on augmente le risque de façon significative. Les études commencent à sortir là-dessus. Et donc, ce qui est touché, c'est la plus grande convivialité. C'est la convivialité où on n'est pas juste côte à côte dans le noir à regarder. C'est la convivialité où on va se toucher, parler, échanger. Et c'est ça qui rend compliqué de faire partager sur la durée cette mesure, et notamment, encore une fois, quand on va vers ces publics plus spécifiques. Mais elle n'est pas en cause, la mesure, elle est légitime.
Ça veut dire, Jean-Pierre Coutron, qu'il vaudrait mieux qu'il y ait un horizon qui soit fixé ?
Oui,
si c'est possible.
Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas possible de fixer cet horizon. Oui. Et la deuxième chose, c'est peut-être qu'il faudrait être prudent de ne pas renvoyer aux personnes cette image d'incivisme dès qu'il n'y arrive pas ou qu'il n'y arrive pas tout de suite. Moi, ce qui m'affole, c'est que ce débat est pris dans une cristallisation. Alors, des débats, votre émission s'appelle Le Débat. Ce débat, parfois, est pris dans une culture de la polémique et de la disqualification qui n'aide pas les publics les plus en difficulté pour rentrer dans la démarche, à rentrer dedans. On a l'impression qu'on les repousse à l'extérieur en disant « Vous êtes des mauvais citoyens
». On essaie justement de ne pas faire ça ici.
Oui, je sais bien.
Jean-Marie Burguburu, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, que lorsque l'on dit qu'il faut fixer un horizon, c'est comme la ligne d'horizon qui se déplace quand on avance. On nous dit maintenant, lorsqu'on fixe courant octobre, début octobre, le couvre-feu, on nous dit jusqu'à début décembre. Et puis peut-être que courant novembre, on nous dira non, il faut aller jusqu'à fin décembre, après les fêtes, parce que ça sera plus calme. Et que si on lâche du lest pendant les fêtes, ça va être une épouvantable contamination. Et il est vrai que la volonté n'est pas d'empêcher les gens d'être ensemble. La volonté est d'empêcher les gens de se contaminer.
Oui.
Mais ils se contaminent quand ils sont ensemble. Donc on les empêche, mais le but du législateur, il ne faut pas l'accabler, le but du gouvernement, ça n'est pas d'empêcher les gens d'être ensemble.
Je voudrais donner pour une dernière fois la parole à Luc Rouban, parce qu'il nous reste peu de temps en fait, hein. Il nous reste moins de 2 minutes. Jusqu'où la société française va pouvoir supporter ça sans trop de problèmes ?
Alors je pense qu'il y a, alors sans contredire du tout les interventions précédentes, au contraire, je pense qu'il y a aussi quand même une dimension sociopolitique très importante, c'est-à-dire que la crise sanitaire s'est quand même associée à une crise, à un malaise démocratique très puissant. D'ailleurs, on le voit bien, hein, la confiance dans le gouvernement pour gérer cette crise est très très basse en France, contrairement à d'autres pays européens, qui ont d'ailleurs les mêmes problèmes, mais parfois des problèmes bien plus importants que les nôtres. Donc si vous voulez, il y a toujours ce mécanisme de malaise démocratique qui est très profond, qui n'est pas résolu, qui pose sans doute des questions à la fois constitutionnelles ou institutionnelles, mais aussi, je dirais, un problème plus général de lien social et de réglage, si vous voulez, entre, grosso modo, pour le dire simplement, entre l'individualisme et le service public. Et là, il faut bien reconnaître qu'on voit revenir en force l'État, on voit revenir en force les services publics, on voit en fait s'écrouler tout l'horizon du néolibéralisme mondialisé qui avait été quand même un petit peu le fonds de commerce d'Emmanuel Macron. Et donc là, ça va ouvrir de vrais débats pour 2022. Et là, j'interviens ici en tant que politiste, évidemment.
Merci beaucoup, Luc Rouban. Merci également à vous, Jean-Marie Burguburu et Jean-Pierre Coutron, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, à Nadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Louis-Ferdinand Ruel. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.